En 2009, Nicolas Cage ira nous montrer qu'il est capable de jouer un cochon d'Inde. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et je suis comme toujours accompagné par Julien Asuncao. Salut Julien.
Salut Alexis.
Et aujourd'hui, on va parler d'un film d'animation cette fois-ci. Pas d'animation, non,
De moitié animation, moitié prise de vue réelle. Donc c'est juste pour nous amener tranquillement au film suivant.
Voilà,
on vous dit pas encore ce que c'est, mais on va être un petit peu dans notre période voice-over, doublage pour Nicolas Cage. Bon, c'est pas la première fois qu'on parle de Nicolas Cage en tant que comédien de doublage, mais voilà, ça se reproduit, ça se reproduira encore après. Pour l'instant, on a eu des surprises plus ou moins bonnes, donc on va voir là ce qu'il en est. Bon, le film, donc, c'est Mission G-Force en anglais. Et donc, c'est un film de 2009, comme tu as dit, film américain, réalisé par Hoyt Yetman, avec quand même, là par contre, au niveau du casting, ça rigole pas des masses quand même, parce qu'on a Sam Rockwell, Penelope Cruz, John Favreau, Steve Buscemi, Tracy Morgan, Zach Galifianakis, Bill Nye, Will Arnett, et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc, un film qui a dû quand même avoir du budget. Je sais pas si c'est un film qui a trop marché en France. Enfin, moi, j'avoue, je connaissais pas avant de voir qu'il faisait partie de la filmographie de Nicolas Cage. Des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être un de ces films, d'animation qui sont surtout marchés aux États-Unis, ou je dis peut-être une grosse connerie, ça a été un gros succès ici, et c'est moi qui connais pas.
Alors, je ne savais pas que ce film existait avant qu'on commence à faire ce truc-là. Puis, il faut quand même reconnaître que, tu sais, bon. Alors après, c'est vrai que, bon, c'est. 2009, hein, tu sais, c'était quand même. On n'était plus des enfants à cette époque-là. Là.
Oui.
Quand même. Moi, je venais d'avoir 18 ans, donc c'est sûr que j'étais plus trop intéressé par qu'est-ce qui sortait pour les enfants. Là. Donc, j'ai quand même l'impression que ça a quand même l'air d'être un film un peu plus pour la jeunesse. Mais apparemment, non. C'est juste que. Donc il avait un budget de 150 millions de dollars, il en a gagné 292, donc c'est quand même un succès.
Oui, bah oui.
D'après ce que me dit Wikipédia, bien sûr, parce que j'ai aucune idée de c'est quoi le film, mais apparemment, les gens n'ont pas aimé le film, quoi. Donc, à voir.
Donc succès financier, on va dire, mais pas critique, quoi.
Voilà, mitigé pour l'instant, donc je vais être honnête avec toi, c'est le genre de choses que j'aime bien parce que ça me permet de partir dans le film avec vraiment une tête bien fraîche. Tu sais, de pas me dire « Ah, j'ai pas d'expectation » parce que tout le monde est genre « Ah, c'est génial ». Et en même temps, tu sais, si les gens sont allés le voir et ont donné de l'argent, c'est qu'ils étaient intéressés. Donc peut-être qu'il y avait au moins un attrait, une amorce qui était peut-être pas si mal.
En même temps, quand je vais te dire le pitch, tu verras pourquoi les gens sont allés en salle. Parce que le pitch, il tient à peu près sur un post-it, donc il est assez simple, mais il donne quand même envie. Hein. C'est une équipe spéciale de cochons d'Inde qui est envoyée pour empêcher un milliardaire diabolique de prendre le contrôle du monde. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Hein. Une équipe spéciale de rongeurs, un milliardaire diabolique, et puis bien sûr, le destin du monde en jeu.
Et Sam Rockwell, donc tout va bien.
Oui, alors je ne sais pas qui joue qui.
Il fait une voix.
Des hamsters.
Pour les gens, parce que voilà, parmi tous les noms qu'on a dit, on a quand même mis des gros noms. Je vais juste dire les noms qui sont juste les voix qui sont censées faire les hamsters. Et c'est quand même pas n'importe qui. Les hamsters sont donc Nicolas Cage, Sam Rockwell, John Favreau, Penelope Cruz, Steve Buscemi et Tracy Morgan. Donc quand même pas n'importe qui font juste des cochons d'Inde.
Plutôt des gens qui savent bien personnifier personnifier les personnages, j'allais dire, c'est un peu ridicule, mais en fait, qui, je pense, savent bien donner vie à un personnage par la voix. Enfin, je les vois bien être plutôt efficaces là-dessus.
On ne devrait pas avoir de mal à reconnaître qui est qui, je pense.
Ouais, et puis, on va voir, je ne sais pas quelle sera la qualité de l'animation, parce que ça va être l'animation 3D. Au Concord, ouais. Là, c'était quand même bien avancé, donc ça devrait aller. Mais surtout, au début, c'était un petit peu « ça passe ou ça casse ». Là, je pense que ça devrait aller. Mais en tout cas, c'est pas forcément toujours évident de faire passer toutes les émotions par juste l'animation. Donc, c'est important d'avoir un comédien qui arrive par la voix.
Alors, oui, voilà. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément mis le point dessus. Tu viens de le dire un peu. Mais c'est parce que c'est vrai qu'on a dit prise de vue réelle et animation. On n'est pas en train de parler de Roger Rabbit en 2D. Oui. Là, c'est vraiment prise de vue réelle et du CGI. Donc, c'est vraiment de la 3D. Voilà. Et je pense que de toute façon, toi non plus, tu ne l'as pas vu.
Non, on va peut-être dire les mêmes choses un peu que ce qu'on avait dit avant Lucas Fourmille malgré lui. Dans le sens où on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais en même temps, si c'est un film pour enfants, généralement, au moins, tu t'ennuies pas trop. Enfin, même si le film, il n'est pas pour toi, c'est généralement le genre de film où voilà, tu ne regardes pas ta montre toutes les 5 secondes non plus. Bon, après, on dit ça, ça se trouve, ça sera ou génial ou très nul. Mais bon, souvent, ce n'est pas les films qui sont les plus durs à regarder, on va dire.
Mais en tout cas, personnellement, moi, je sais pas, là, je suis content. Le thème me va. C'est vrai que moi aussi, oui, en ce moment, j'ai du mal avec les milliardaires. Donc, tu vois, pourquoi pas. Ça peut être plutôt bien. Je pense que on a pas mal fait le tour sur qu'est-ce qu'on avait à dire sur cette intro.
Oui, oui.
Mais si tu me permets d'avoir le mot de la fin, parce que je trouve que c'est plutôt fun et j'ai trouvé ça cool, c'est sur la page française de Wikipédia. Et apparemment, l'origine de ce film est liée au fait que le fils du réalisateur, qui avait 5 ans à l'époque, lui a parlé de ça. Voilà.
Il lui a donné l'idée.
D'accord. Donc ça peut être bien ou ça peut être pas bien.
On va dire que ça dépend ce qu'ils ont rajouté après à l'idée, quoi. Si, jusqu'à quel niveau de c'est le gamin qui a tout écrit. Bon. Bon, on peut passer au visionnage alors.
Allez, à tout de suite. How much longer, Speckles? Just a few more touches to decode Saber's crypto system. To access the information on Darwin's PDA, I have to factor a univariate polynomial over a finite field. Okay. Hey, do I look fat in this? I haven't worn a jacket since the prom. You look very sharp. Et on est de retour après avoir vu Mission G, ou GeForce dans la version originale, que je trouve que c'est bien plus classe. Alors je vais continuer à dire GeForce.
C'est vrai que c'est plus classe. C'est vrai que je sais pas pourquoi. Bon, Mission G, non, ça va, mais ça fait penser à autre chose, je sais pas. C'est juste de mettre le G avant ou après, ça change tout, c'est assez étonnant, mais bon.
C'est vrai que s'il l'avait appelé Force G en français, je pense que ça aurait été même encore mieux.
Le G qui est pour, en anglais, Guinea Pig, j'imagine, donc cochon d'Inde.
Oui, qui ne marche pas en français.
Oui, ils ont appelé ça Mission C, hein. Mais bon. Mais voilà, donc film mélange d'animation et de prise live.
Ouais.
On n'avait pas eu ça trop encore, je crois.
Eh ben de... Non, du film. Tout. Pas avec Nick Cage, en tout cas.
Oui. Sinon, c'est déjà arrivé dans l'histoire du cinéma, effectivement. C'est pas genre... Et oui, sachez que GeForce est le premier film de l'histoire du cinéma à mélanger prise de vue réelle et animation 3D. Non, pas du tout.
Mais tu vois, c'est assez drôle que tu entames là-dessus, parce que c'est vrai que mon premier commentaire sur ce film, c'est que mine de rien, la 3D est vraiment pas dégueulasse.
Ouais, je suis assez d'accord. Ça a plutôt bien vieilli.
Ouais, non, Jerry Bruckheimer, bien produit ça. Écoute.
Non mais voilà, on va dire 2009, c'est pas si vieux. Mais en même temps, des films de 2009 qui ont mal vieilli, il y en a quand même quelques-uns. Donc voilà. Rien que ça, c'est quand même plutôt un premier point positif.
On peut dire ce qu'on veut à propos de Disney. En général, sur les effets spéciaux, ils savent se débrouiller, quoi. Voilà.
Ouais, puis ils n'essayent pas d'en faire trop au final. Il n'y a vraiment que les hamsters, hein, qui sont en 3D, et le reste, tout le reste...
Les ennemis un peu aussi.
Oui, oui.
À moins qu'ils aient fabriqué une machine à café.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est du, c'est pas des, c'est pas des des ennemis organiques. Donc du coup,
oui,
ça.
Oui, ok, ouais.
Il y a moins de prise de risque, je pense quand même que dès que tu fais des êtres vivants, bon, c'est là où c'est compliqué.
Ça, ça passe un peu mieux, ouais, je suis d'accord avec toi.
Ayant tous les deux essayé d'animer des êtres humains en 3D, on sait à quel point c'est difficile.
Oui. Mais j'en fais encore en ce moment, puis c'est toujours,
toujours aussi difficile. Est-ce que tu as un mot à dire avant de parler un petit peu de l'histoire? Est-ce que tu veux faire un premier disclaimer?
Pamplemousse? Non, non, en fait, j'ai pas envie de faire un disclaimer parce que je pense que je vais garder mon appréciation pour un peu plus tard.
Tu gagnes la surprise.
Je pense que ça vaut la peine qu'on rentre. Ouais, ça vaut la peine qu'on rentre juste là-dedans. Parce que en vrai, comme on disait un peu en fer, on pense pas qu'on va passer énormément de temps sur le résumé parce que au final c'est quand même un film pour enfants. Oui. Et on s'entend que c'est pas ça casse pas trois pattes à un canard.
Oui, c'est assez classique.
Mais ouais, voilà, on va rentrer là-dedans, je garde mon...
Il y a quand même quelque chose à dire, ok.
Ouais, j'ai quand même trop de trucs à dire.
Comment ça commence déjà? Ah oui, ça commence, en fait, je crois qu'on les accompagne dans, justement, dans une mission, c'est ça?
Oui, voilà. Voilà, en gros, donc on a, ça commence avec, pour moi, le meilleur reveal de tous les temps, parce que c'est Monsieur Zach Galifianakis qui parle avec un guinea pig qui s'appelle Darwin, qui est voice par Sam Rockwell, et qui en gros leur explique que à moins qu'ils aient des résultats, le FBI va les fermer, ce qui déjà est une prémisse incroyable. Et donc en gros, après qu'ils aient soient mis d'accord, en gros ils partent s'introduire dans la maison de Monsieur Saber, joué par Bill Nighy, que j'adore. Et en gros, ils doivent infiltrer cette maison parce qu'ils sont convaincus que ce mec-là, qui est le CEO de Saber Enterprise, qui est en fait le plus gros vendeur de comment on appelle ça en français,
les machines à café.
Pas juste, enfin de tout là, de appliances en anglais, là,
ouais,
de frigo, de tout.
D'électroménager.
Voilà, merci. D'électroménager au monde. Et ils sont convaincus que ce mec-là a quelque chose à cacher. Donc, ils essayent de s'introduire dans sa maison. Et c'est là qu'en fait, on fait la connaissance de toute l'équipe. Donc, de Darwin, joué par Sam Rockwell. De. J'ai oublié leur nom déjà.
Pierre Juarez.
Juarez, qui est joué par Penelope Cruz, qui est voicée par Penelope Cruz.
Voilà. On n'a pas trop de doute, hein, parce que là, ils ont bien dit de pousser le potard à fond sur l'accent espagnol. Hein, donc,
voilà,
là, il n'y a aucun doute sur quel rôle elle joue.
Exactement. Un Blaster, qui est voicée par Tracy Morgan. Un Mooch, qui est une mouche, qui est voicée par quelqu'un, je crois, mais pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas. Et alors là.
Voilà. Oui.
Et alors là, on a le droit à Speckles.
Première
qui
surprise.
Est une comment on appelle ça? Qui n'est pas un hamster, mais une taupe.
Une taupe.
Et qui est voicée non pas par Nicolas Cage, mais qui est voicée par la version Peggy Sue s'est mariée de Nicolas Cage. Parce que c'est exactement le même accent de merde qui revient. Et moi, je suis là pour l'écouter du début à la fin.
Ouais, c'est une variation encore, parce que mais je crois que c'est le premier film de Nicolas Cage. Enfin, j'avais pas trop regardé quel personnage il jouait avant, ou enfin, en tout cas, j'avais oublié. Et j'étais là, je fais, mais attends, mais je sais pas quel personnage il joue. Je reconnaissais pas sa voix, en fait. Bon, après, il y a des intonations où tu reconnais. Et je trouve, sur la fin du film, il change un peu la voix du personnage.
Oui.
Pour certaines raisons, notamment. Enfin, je sais pas s'il fait totalement exprès, mais en tout cas, c'est le cas. Où je m'étais habitué, je sais pas. Mais au début, wow, super dur de changer sa voix. J'ai l'impression qu'il avait mis un peu d'autotune sur sa voix.
J'ai fait pareil, j'ai plissé les yeux pendant un moment. J'étais genre, mais attends, parce que c'était genre, je reconnais cette voix. Je sais, je l'ai déjà entendue quelque part. Puis tout d'un coup, ça a fait ah, j'ai vu des dents, j'ai vu ce nez, puis j'étais genre, oh merde, c'est Peggy Sue, c'est marié.
Mais oui, je me demande si quand même il n'y a pas eu un peu de modification par la voix après en post-prod.
Sûrement, ouais,
ouais. Parce que c'est pas hyper naturel, c'est pas juste lui qui prend un accent.
J'ai l'impression qu'ils l'ont un peu tous, parce que tu vois, c'est pareil, Sam Rockwell, j'ai mis du temps avant de le reconnaître.
Ah, pas moi, tu vois.
Alors que je trouve qu'il a quand même une voix assez reconnaissable, mais de rien. J'ai mis
un peu
du temps.
J'ai pas eu cet effet-là, ouais.
Donc, je pense qu'ils ont probablement mis un peu d'autotune pour donner l'impression qu'ils sont, tu sais, c'est des petits animaux, là, avec ils ont une voix.
Ouais,
un
alors c'est pas les chipmunks non plus, hein, mais.
Non, mais.
Ça va. Mais c'est surtout lui, parce que vu que c'est une taupe aussi par rapport aux autres, je sais pas, ils voulaient peut-être le différencier au niveau de la voix aussi.
C'est drôle parce que voilà, donc c'est une taupe qui s'appelle Speckles, donc lunettes, je dirais. C'est une taupe qui a des lunettes, parce que forcément c'est une taupe, il voit que dalle. Et étonnamment, quand t'entends sa voix, t'es genre, ouais, c'est la voix de quelqu'un qui porte des lunettes pour moi, je sais pas, ça marche bien.
Ok. Donc la même voix que nous, quoi.
Ouais, voilà, c'est très con.
Mais ok.
Non, mais voilà.
Donc, on commence sur une scène assez classique de film un peu d'espionnage, d'action comme ça, où il y a une mission qui se passe, il y a un plan qui est prévu, ils infiltrent et tout. Assez sympa.
Alors, peut-être qu'on peut très très rapidement un peu parler des rôles que chacun a, on va dire que voilà.
Oui.
Donc Darwin, qui est joué par Sam Rockwell, lui c'est un peu le rôle du point man, c'est lui qui s'introduit, c'est lui qui c'est Ethan Hawke,
c'est le chef de la bande aussi.
C'est Mission Impossible, quoi. C'est Tom Cruise dans Mission Impossible, voilà. On a le droit à Blaster et Juarez, qui sont un peu les gars qui sont là pour le supporter, pour l'exfiltrer, pour le sortir de la maison. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin de deux personnes pour faire ça, mais ça, ce n'est pas un problème. On a le droit à la mouche, qui, elle, est vraiment juste là pour servir de caméra. Et on a la taupe, Speckles, Nicolas Cage, qui est en fait le hacker et le gars qui est... c'est Oracle, quoi, dans Batman, pour ceux qui connaissent Oracle. C'est la personne qui est derrière son ordinateur et qui aide les gens, quoi. Donc voilà, on a vraiment un rôle très, très basique d'espion. Puis voilà, donc on a une scène où justement Darwin et la mouche sont en train de s'infiltrer. Et d'ailleurs, pour être honnête, plutôt solide, j'ai trouvé, comme scène. Plutôt solide, tu t'ennuies
ouais,
pas
l'animation,
quand tu la regardes.
L'animation est sympa, du coup c'est assez dynamique.
Voilà.
Et ça, y a du rythme, ça s'enchaîne bien. Généralement sur les films d'animation, de toute façon... Tu as le côté rythme, ils arrivent bien à le garder, à part quand il y a des gros ratés, mais là, ouais, c'est assez rythmé, donc ça se passe bien. Ouais. Cette première scène, elle est assez réussie. Et donc, ils réussissent ce qu'ils sont venus faire, en gros, hein, ils réussissent à récupérer le code des données du produit qu'ils veulent lancer, et dont ils pensent être autre chose qu'un juste une vulgaire machine à café.
Exact.
Et donc ils retournent dans leur QG. À ce moment-là, il va y avoir, je ne sais plus quel rôle exactement ils ont au sein du FBI, mais en gros leurs supérieurs en fait qui viennent les voir. Et c'est à ce moment-là que Zach Galifianakis, donc qui joue le boss de l'équipe de Hamster,
et qui est une vraie personne là pour le coup. Hein, c'est
oui.
Pas Hamster. Voilà, c'est...
Il annonce aux membres du FBI que voilà, il a décidé de par lui-même de lancer cette mission. En fait, eux n'étaient pas au courant. En gros, ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils surveillaient les mecs, mais ils n'étaient pas passés à l'action.
Deux
et
ans.
Et donc il leur dit.
Ça,
ouais. Et là, il leur dit ouais, voilà, nous en 10 minutes, on a réussi à faire plus que vous en 2 ans. Donc là, à ce moment-là, les mecs découvrent qu'il y a des hamsters qui parlent.
Voilà. Il faut quand même reconnaître que, alors, un des trois gars est joué par Will Arnett, et ce moment où il découvre que les hamsters parlent, je l'ai vraiment apprécié. Là. Quand il joue ce petit gars surpris, genre, que c'est ça
Bon, il n'est pas étonné très longtemps.
Non, mais j'ai rigolé, voilà, j'ai rigolé.
Donc là, et du coup, ils sortent ce qu'ils ont réussi à récupérer en s'infiltrant, sauf que, malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu, et en fait, ce qu'ils affichent à l'écran, c'est juste les plans d'une machine à café, quoi.
Voilà.
Donc là, Will Arnett et compagnie sont pas très contents. Ils disent on va fermer tout ça, hein, votre branche, là, vous faites n'importe quoi. Vous nous avez pourri une opération de 2 ans. C'est la merde. Et donc, petit moment exfiltration où l'idée, c'est de faire en sorte que les hamsters puissent s'échapper pour pas qu'ils soient récupérés par Will Arnett. Donc, voilà, petit moment un peu rigolo. Il y a aussi un autre personnage, je sais plus comment il s'appelle, qui est un peu l'assistante de Zach Galifianakis.
Oui.
Et qui a une petite scène rigolote où elle va justement distraire les gardes.
Marcy.
Ok. Voilà. Oui, parce qu'il n'a pas un rôle hyper important dans l'histoire.
Non, vraiment pas, malheureusement.
Bon, de toute façon, comme Galifianakis, hein, l'idée, on ne va plus les revoir. Hein, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les hamsters.
On les revoit, donc voilà, ouais, ils s'échappent. Mais c'est tout. Voilà, puis donc c'est ça, à partir de là, eux, ils réussissent à s'échapper, mais malheureusement, ils s'échappent en s'enfermant dans une cage. Cage qui est ensuite emmené dans un pet shop, donc là il se retrouve dans un pet shop, et donc on a maintenant deux sub-story, hein. on a la sub-story avec eux qui sont en mode il faut qu'on s'échappe, et on a la sub-story avec Zach Galifianakis et Marcy qui eux essayent de récupérer le PDA sur lequel il est censé avoir les bonnes informations, parce qu'ils sont convaincus que, comme Darwin est convaincu qu'il a téléchargé le bon fichier. Donc c'est pas normal qu'ils aient juste la machine à café sur le truc. Donc là, voilà, il y a ça qui se passe. Le côté il s'échappe est un peu... Bon, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est un peu le truc le plus long du film, on dirait. Là, Darwin va rencontrer son frère qui apparemment était
c'est pas vraiment son frère a priori, mais bon, en tout cas quelqu'un qui était dans l'animalerie depuis longtemps. En fait, voilà, et c'est là qu'ils vont rencontrer plusieurs personnages, des
John Favreau,
des personnages un peu rigolos, on va dire. C'est peut-être la partie un peu la plus pour enfants. Oui. Là, c'est justement, on peut dire un mot là-dessus au niveau de l'humour. Bon, ça alterne un peu différents niveaux, je trouve. Mais notamment dans cette partie-là, il y a un petit peu d'humour, un peu pipi caca.
Oui. Bah oui, voilà, c'est enfantin. C'est ça, voilà, on a John Favreau qui joue un hamster, bah pas un hamster, un cochon d'Inde qui est un peu plus gros. Donc voilà, il a l'habitude de juste se lâcher de partout. On a aussi
qui
est un peu
plus, c'est qui est rigolo, il va jouer ce rôle-là pendant le film.
On a le droit à Steve Buscemi qui joue, lui, un hamster. Qui est canadien apparemment et qui est juste tout le temps fâché. Donc voilà, il y a une dynamique un peu bizarre qui se passe, et donc ils essayent de s'échapper. Blaster et Juarez réussissent à s'échapper parce qu'il y a une famille qui vient les adopter, et donc c'est pareil, on a le droit à la famille de la petite fille qui, elle, veut utiliser le hamster pour l'habiller en princesse et de la maquiller.
Il y a un petit côté Toy Story là à ce moment là
oui,
trouve,
voilà, hein. Ouais. Bah, c'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire, le garçon c'est littéralement l'autre connard dans Toy Story 1 qui veut détruire les jouets, parce que tout ce qu'il fait c'est torturer Darwin, Blaster. On a la Speckles, la taupe, qui se fait passer pour mort, et du coup il se fait jeter dans un camion poubelle. Ce que j'ai trouvé genre super drôle, parce que je trouve ça super c'est super trash, quoi, quand il pense un peu, même si voilà, bon, vous spoil rien, mais voilà. Et Darwin, au final, se rend compte, grâce à Steve Buscemi, que en fait, il y a une trappe qui aurait juste pu s'échapper très très rapidement. Et voilà. Donc bon, là, on passe très vite, mais au final, c'est quand même quoi ? C'est un bon.
C'est vrai que ça prend une partie quand même importante du film, en fait. Voilà. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ils vont retrouver le PDA, et comment ils vont prouver que en fait ils avaient bien fait le travail, parce que on est un petit peu, c'est vrai que là on est dans le schéma en dehors de cette partie où ils sont coincés dans une animalerie, donc ça c'est vraiment spécifique au fait que ce soit des cochons d'Inde, mais sinon on est un peu dans le schéma une équipe qui doit rétablir la vérité en dehors de son organisme.
Oui, voilà,
t'as un peu ça dans Mission Impossible où les mecs des fois ils sont tout seuls, parce que ou dans James Bond, parce que je sais pas, par exemple il y aurait une taupe, par exemple, dans le
oui, bah voilà, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le, oui, c'est le truc, C'est le truc tout à fait classique, en fait. Et d'ailleurs, voilà, on a le droit à Ben et Marcy qui vont récupérer le PDA grâce à des cafards qui sont entraînés. Une petite scène assez marrante où il y a plein de cafards qui s'introduisent pour récupérer un mini PDA. C'est amusant. Et ils réussissent plus ou moins tous à s'échapper de leurs endroits respectifs. Blaster et Juarez réussissent à s'évader de la maison en volant une voiture télécommandée. Et ils finissent
là aussi
par
une
tous,
scène.
Oui, plutôt cool.
Qui fonctionne assez bien. Le côté. On retombe un peu dans Toy Story, dans le côté. Vu que c'est des petits êtres. Ils vont s'approprier des choses qui sont à la base des jouets,
voilà.
Comme étant des choses normales pour eux. Et c'est vrai que ça a toujours son petit effet, je trouve.
Bah ouais, c'est enfantin, mais c'est whimsical, c'est toujours fun à regarder. Puis en plus, faut reconnaître que tu sais, genre, je trouve que Penelope Cruz, Tracy Morgan, Sam Rockwell, même John Favreau font super bien leur job. Donc du coup, ouais. T'es entraîné dedans. C'est vraiment pas c'est un film que j'ai trouvé divertissant personnellement de début à la fin. Même si la fin, on en parlera quand on en sera là, mais bref.
En tout cas, oui, comme tu dis, le travail de voice acting est vraiment plutôt réussi. Enfin, ils se sont pas allés. Juste pour toucher le chèque, je trouve.
Voilà. Non, ils ont fait un film qui est solide jusqu'à un certain point. On en parlera, mais voilà. Donc en gros, ils réussissent à tout récupérer ils réussissent à se retrouver chez Ben et Marcy, chez Ben surtout. Mais malheureusement, le FBI les retrouve et là, ils réussissent à s'échapper grâce à des moto / boule de hamster bizarre là, que Ben avait créé ou je sais pas quoi.
Ouais, c'est ça, il avait créé un prototype d'espèce de véhicule qui ressemble justement à ce qu'on imagine, donc à les roues pour hamster, sauf que là voilà, ça devient un véhicule, donc c'est une sphère où ils se mettent dedans et ça se transforme en véhicule. On l'a pas dit, je crois que c'est un peu avant, il y a juste un moment où ils se battent contre la machine à café qui en fait se transforme en robot.
Exact.
C'est une espèce de Transformers, mais sauf qu'au lieu à la base d'être une voiture, là c'est une machine à café.
Thierry Bruckheimer aime bien les choses qui se transforment.
Et donc on comprend que voilà, c'est la teneur de la menace, c'est ça en fait.
Oui, voilà. Y a aussi le fait que Darwin, on a ce petit subplot que Darwin et Hurley, donc John Favreau, le gros guinea pig, lui il croit pas que Darwin c'est un espion, mais maintenant qu'il a vu ça, il commence à s'en rendre compte, blablabla. Et maintenant voilà, ils comprennent c'est quoi le plan de Saber. Vous n'avez pas vu, mais j'ai fait des guillemets, vous allez comprendre pourquoi à un moment. Le plan de Saber pour contrôler le monde finalement. Ils se rendent compte ils se rendent compte de ça, donc ils se rassemblent. Oui, on a oublié de le dire ça aussi, mais c'est là que en fait ils apprennent tous que parce que depuis le début Ben n'arrête pas de leur dire que c'est des guinea pigs, c'est des cochons d'Inde qui ont été modifiés génétiquement, qui ont été créés juste
pour être des machines de guerre, quoi.
Et là, en fait, il leur explique que non, quoi. Que Darwin, c'était un gars qu'ils ont trouvé dans un pet shop, et que c'est bel et bien probablement le frère de l'autre, que Juarez c'était ils allaient la manger, je crois que Blaster c'était juste quelqu'un à qui on s'utilisait des produits pour les cheveux ou je sais pas quoi, blablabla. Bref,
ouais, c'est des animaux normaux, donc voilà. Ils ont un petit moment de où ils se disent du coup en quoi on est légitime pour faire les agents secrets. Bon, ça dure pas très longtemps, hein. Ils se disent au final on sait ce qu'on fait depuis le début, on le fait bien, voilà. Donc il y a pas de raison, allez on se remotive et on va aller aller chez Cyber pour c'est quoi, ils ont créé un virus en gros pour...
Non, le virus est déjà dans le PDA en fait, c'est ça le truc, c'est que dans le PDA il y a un virus que si tu le plugs à un ordinateur ça détruit les ordinateurs, donc ils sont juste, mais en fait c'est Hurley, c'est John Favreau qui est en mode pourquoi vous utilisez pas ça pour le détruire en fait,
oui, c'est
et
vrai.
Tout le monde est genre c'est vrai, c'est pas con, et en fait c'est vrai que c'est pas con, c'est pas con comme idée.
Oui, bah, un film d'espionnage où il faut aller mettre un virus dans un ordinateur, bon, on connaît, mais. Mais clairement, c'est inspiré de films assez classiques.
Exact. Et on apprend, donc voilà, ils retournent chez Saber, ils réussissent à rentrer dedans. Bon, alors il y a une petite, un petit truc avec. Darwin et son frère, parce qu'il a demandé à son frère de garder la sortie, mais qu'en fait il le fait pas, donc il risque de se faire tuer par un micro-ondes. Pareil, le truc un peu sympa, une petite scène d'action sympatoche.
Ouais, les scènes d'action sont plutôt réussies.
Oui, et là on découvre que finalement, Leonard Sable, lui, il comprend pas en fait ce qui est en train de se passer. Lui, il était convaincu que tout ce qui allait se passer, c'est que ces appareils allaient communiquer entre eux. Et là, il se rend compte que ça devient des machines de guerre qui sont là pour détruire. Et il est genre, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Et là, retournement de situation. Alors, on va vous faire l'honneur de vous dire petit spoiler. Donc, comme d'habitude, on vous mettra un petit time frame, si jamais time stamp, pardon, pour vous dire si vous voulez sauter après le spoiler, voilà, au cas où vous avez pas envie de vous faire spoiler un film pour enfants. Voilà. Donc, on vous laisse quelques secondes avec une petite musique rigolote que je ne vais pas chanter, mais je sais pas, on verra. Si c'est moi qui édite cet épisode, peut-être que je le chanterai, qui sait.
Espérons que ce ne soit pas toi, du coup.
Ici le Julien du futur qui vous parle. Nous allons entrer dans une zone de spoiler. Mais pas d'inquiétude, je suis là pour vous accompagner. Merci d'avancer de 10 minutes dans l'épisode si vous voulez garder la surprise de cet incroyable twist de fin. Attention, ça va repartir dans 3, 2, 1.
Et donc voilà, donc on est de retour après le petit spoiler spoilerisant. Et donc, on apprend que la taupe, c'était la taupe. Voilà.
Meilleur van du film.
Personnellement, j'ai ri. J'ai vraiment ri. Et surtout
parce qu'en fait... L'intonation, elle est... je sais plus quel personnage dit ça, mais en fait...
Qui aurait cru que la taupe, c'est une taupe.
C'est con, mais je sais pas. En fait, c'est juste que la façon dont il le prononce, c'est bien délivré, quoi.
Ouais, c'est Tracy Morgan, je crois. C'est Buster,
Il est bon, Tracy Morgan, quand même.
Et ouais, il est bon. Et en plus, comme tu disais, voilà, Nick Cage, sa voix, elle est un peu plus partie dans l'aigu, là. Il est en mode, je suis méchant, j'adore. Et là, en fait, on apprend que donc Speckles travaillait avec Leonard Saber pour créer ces puces qui sont dans toutes les électroménagers. Et en gros, Leonard Saber lui pensait que c'était juste un truc pour que toutes ces machines deviennent intelligentes et qu'elles se parlent entre eux. Mais en fait, non, lui, il a créé ça pour que ça transforme tout en machine de guerre parce que il déteste les humains, il veut juste que les humains meurent.
On a un petit flashback avec les origines de méchants qui sont assez rigolo, la façon dont c'est fait, film de super-héros un peu classique ou un manga où quand ça s'arrête pendant 15 épisodes pour t'expliquer pourquoi le méchant est méchant. Là, c'est beaucoup plus rapide, mais du coup, c'est marrant.
Et on apprend en fait que il transforme quoi, c'est genre. Tout le mainframe en une espèce de robot géant, un truc comme ça.
Ouais.
Et là, on apprend qu'en gros, lui se sert de tous les appareils pour attirer les. Tous les satellites qui sont autour de la planète et qui fonctionnent plus. En gros, les poubelles, quoi. Les déchets satellites.
Qui sont en orbite autour de la Terre.
Et il veut s'en servir comme des space débris pour détruire, en fait. Ce qui est, en vrai, plutôt un plan plutôt cool. Je trouve que c'est cool comme plan, moi.
Et donc, ça marche bien. Bon, après, ce qui est moins cool, c'est que... On va dire que le personnage de... Donc, je vais parler de Nicolas Cage, va avoir un changement d'avis assez rapide. Parce qu'il va suffire que... Je pense que c'est Darwin qui doit lui dire... mais oui, mais nous, on t'aime, regarde... Regarde que Zach Galifianakis, il a l'air super gentil.
Il a toujours l'air super gentil.
Et il change d'avis tout de suite. Ah oui, mais je veux plus être un méchant, moi, maintenant.
Donc, mais ils peuvent pas l'arrêter, parce que...
Voilà, ils peuvent pas l'arrêter, mais Darwin réussit quand même à bondir, à choper le PDA et le brancher dans un ordinateur. Et du coup, le virus est chargé. Et puis la Terre est sauvée. Voilà.
La Terre est sauvée, gros. Voilà. Bon.
Voilà, en gros, c'est ça.
Ça finit avec un petit. Finalement, ils sont tous
officiellement des agents.
FBI, voilà, ils ont un petit badge. La taupe, elle est en train de détruire chaque électroménager avec son machin dedans en mode j'espère qu'ils vont me reprendre plus tard, blablabla.
Ouais, il y a un petit côté bon, que sont-ils devenus voilà.
On a le droit à Will Arnett qui est dans le froid parce qu'il a froid.
Et qui a été muté.
J'avoue, pour moi, la fin, elle est un peu.
C'est précipité.
Naze, quoi. Ouais, elle n'est pas très bien. Mais voilà. Et bon, ouais, je pense qu'on on peut fermer la parenthèse sur ce film. Sur le résumé.
Sur le résumé, oui. Non, mais c'est ça, la fin, elle est un peu. Elle est mignonnette, elle n'est pas si drôle que ça dans les petites capsules où tu vois chaque personnage. Bon, t'as pas vraiment le temps de t'attacher non plus à tous les persos, donc bon, c'est pas hyper réussi. Voilà. Après, quel est ton avis global? Bon, je pense qu'il a un petit peu déjà transpiré sur ce qu'on a dit là dans le résumé, mais.
Alors, je vais juste me permettre de dire fin de spoiler. Vous pouvez jumper jusqu'ici, voilà, et là, on va commencer à donner notre avis sur le film. Bah, écoute, moi personnellement. C'est toujours un peu la même chose là. T'sais, en ce moment, on s'assoit quand même pour regarder des films qu'on connaît pas et dont on a une vision assez, mauvaise. Quoi. On assume que c'est mauvais parce que les films qu'on connaît pas avec Nick Cage, on s'assume qu'ils sont pas bons. Et honnêtement, ben, personnellement, moi j'ai été agréablement surpris. Alors, mis à part la fin qui est bâclée, elle est absolument bâclée, je l'ai trouvé très. Très entertaining, quoi. C'est pas un film qui casse trois pattes à un canard, mais c'est pas non plus le déchet qu'on en fait croire, quoi. Quand tu regardes, ben voilà, le box office ou alors la réception critique, les gens ils font penser que c'est un film qui est tout nul, quoi, mais pas du tout. Enfin, voilà, apparemment, il a 22% sur Rotten Tomatoes.
Rotten Tomatoes.
Ah non, c'est pas Rotten. Ben voilà, mais tu sais, genre, c'est con, hein. Roger Ebert, qui est quand même une personne, voilà. Bon, maintenant, il est décédé, malheureusement, mais qui est quand même une sommité dans le cinéma. Il a donné 2,5 stars sur 5 et il dit que c'est un film plaisant, inoffensif.
Il a 5 animé, points. Quoi. Il a 5.1 sur IMDb, donc voilà, en gros, c'est un film voilà, honnête. C'est dur à juger, parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout la cible. Du coup, c'est dur de juger l'humour. Il y a certains moments où je me rends compte que je pense que ça doit être divertissant pour plus jeunes. Il y a des moments où je ne sais pas trop dire si moi, ça m'aurait fait délirer ou pas quand j'étais gamin. Pas sûr. Je pense que c'est plutôt les scènes d'action qui m'auraient plu que l'humour qui m'aurait fait rire.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu vois, par exemple, même en tant qu'adulte, c'est un film qui dure quoi, 1h40?
Ouais, non, mais je crois qu'on en a parlé en intro. De toute façon, les films d'animation, même quand c'est pas incroyable, généralement, tu regardes pas trop ta montre, et surtout, c'est des films qui ont tendance à pas durer 3 heures non plus. Alors que des fois, des films live très mauvais, ils peuvent pas s'empêcher de durer 2 heures quand même. Donc, cette qualité-là.
C'est clairement des films qui sont faits pour les enfants. Et on sait tous que les enfants, si tu les laisses devant un film plus d'une heure et demie, ils commencent à chialer, quoi. Donc c'est normal. Mais honnêtement, c'est pas un film, par exemple. Bon, alors, pas maintenant, parce que forcément, ça me fait chier, quoi. Mais c'est pas un film auquel je serais contre le revoir. Tu vois, si je devais revoir un film, avec un petit neveu ou un enfant en bas âge ou machin, et qui me dit viens, on regarde GeForce, je serais pas genre, je vais pas lui dire ah non, oui. Non, je serais pas triste, tu vois, je serais genre bon allez, ouais, pourquoi pas, c'est fun quoi, c'est fun, puis voilà, comme
tu l'interdiras pas de voir le film.
Oui, voilà, c'est pas, par exemple The End Bully. Je l'ai pas détesté non plus, mais déjà je serais un peu plus genre mais t'es sûr tu veux pas regarder un autre film quoi. J'ai force.
Ah ouais, moi je mettrais à peu près au même niveau, voire un peu en dessous celui-là, je sais pas.
Je sais pas, moi peut-être que c'est juste parce que le truc espion ça me parle un peu plus. Moi c'est le genre de truc qui m'a toujours fait plaisir, t'sais, c'est pour ça que j'aimais Kim Possible quand j'étais jeune. J'aime bien ce genre de délire un peu, donc c'est sûr que moi c'est venu chercher un peu mon enfant en moi, tu vois. Et du coup j'étais plaisantement surpris, puis en plus ça m'a fait plaisir. Bon, alors, moi, il y a un truc que je déteste personnellement dans les films pour enfants, c'est qu'en général, bah, en général, mis à part des films comme des films Pixar ou des trucs comme ça, on prend les enfants pour des abrutis. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, parce que personnellement, je considère que un film pour enfants, tu devrais travailler deux fois plus fort, en fait. Tu devrais faire deux fois plus d'efforts, parce que c'est un enfant, et qu'il faut que tu lui fasses comprendre tout ce que tu veux lui dire super simplement et super facilement. Et ce film-là, mis à part la fin, qui est pour moi un letdown complet, je n'aime pas cette fin, je la trouve facile. Je trouve très facile, et mais bon, ça c'est moi, là, je suis un adulte aussi. Je trouve que le film fait beaucoup d'efforts, en fait. Ouais, il fait beaucoup d'efforts dans sa présentation, parce que comme on disait, les scènes d'action sont plutôt bien réalisées. Hoyt H. Yetman Jr. est quand même pas un mauvais réalisateur. On a le droit à un cast qui est là et qui joue, quoi. Zach Galifianakis, même pour les personnages live, quoi. Zach Galifianakis, Bill Nighy, Will Arnett, ils sont là, quoi. Ils jouent. Will Arnett fait du Will Arnett. Zach Galifianakis fait un rôle de Galifianakis poussé. Et les voix, comme on disait plus tôt, elles sont on point, quoi. Elles sont là. Tu sens que les gars, ils ont fait des efforts, quoi. Et pour moi, ça va un long way, tu vois. Enfin, je préfère un film où t'as l'impression que les gars ont fait des efforts, mais qu'ils aient raté, plutôt qu'un film où c'est juste, ils sont juste là, ils sont fait, on va faire n'importe quoi, quoi. Puis c'est des enfants, donc c'est pas grave. Donc, tu sais. Ouais,
Bon, ça c'est. Ça c'est quand même bien plus,
ce film-là.
Ça c'est quand même amélioré dernièrement, hein. Enfin, même ces 10 dernières années, on va dire. C'est un truc qui a l'impression est de plus en plus correct à ce niveau-là. Après, petit mot sur la musique qui est très ancrée dans son époque. Hein. Ça a pas très bien vieilli. On sentait qu'il y avait vraiment une volonté de faire passer les tubes du moment, hein, parce qu'on a du Black Eyed Peas, du Lady Gaga, les Pussycat Dolls et compagnie. C'est marrant, mais on sent que la musique, elle est pas là parce qu'elle colle à l'action, je sais pas quoi. Hein. Les puces là. Je sais pas, les gamins, j'imagine, reconnaissent des chansons qui passaient à la radio à l'époque et qui kiffaient bien. Donc, c'est juste un petit mot là-dessus. Bon, c'est pas le plus important.
Je vois ce que tu veux dire.
On l'a forcément déjà évoqué. Donc, Nicolas Cage qui joue un rôle un peu spécial parce que lui, c'est pas un hamster mais une taupe. Qui s'est fait plaisir au niveau de la voix.
Ah, il s'est fait plaisir.
Au final, il est pas tant là que ça dans le film, quand même.
Mais on l'a beaucoup au début, on l'a beaucoup à la fin.
Il y a un moment où il disparaît.
Voilà. Il est là, tu vois. Un truc qui me fait le plus plaisir, personnellement, c'est que, voilà, toi et moi, on aime Sam Rockwell. Toi et moi, on a aimé. C'est quoi le nom en français ? Con artiste,
les associés.
Magic Man, voilà, les associés. Moi, ça me fait plaisir de voir que Nicolas Cage, en général, quand il interagit avec quelqu'un, c'est en général avec Sam Rockwell. Et j'aime ça, moi. Ces deux gars-là, ils ont, même juste avec leur voix, ils ont une certaine chimie qui passe super bien. Je sais pas, là, au début, quand ils se parlent et qu'ils se font des blagues un petit peu, surtout Nick Cage avec sa voix. Je sais pas, là, j'ai eu un petit plaisir, hein. Je me suis fait un petit plaisir, personnellement, avec ça.
Donc voilà, petit plaisir que se fait également Nicolas Cage, je pense qu'il s'est fait plaisir.
Oui.
Ça commence à faire pas mal de films qui double.
Ouais.
Donc il a l'air d'aimer ça, et ça se passe bien, voilà.
C'est aussi quelque chose que j'ai trouvé assez rafraîchissant dans un sens, parce que là pour l'instant, nous, les films qu'on a vus, c'est surtout cette travestie de un truc de Noël là où il est là 3 secondes.
Ah oui,
et demi.
The
Ant Bully, il me semble qu'il y en a aussi un autre qu'on a vu où il fait une voix. Non, hein. Attends.
Si, moi j'aurais. Non, je sais plus.
Y en a un autre. Moi je pense aussi à Spider-Man parce que toi et moi on l'a vu et on sait qu'il est dedans. Mais il me semble que c'est tout, hein. C'est pas mal ces trois films-là. Et
oui, c'est ça en fait.
Malheureusement, il faut reconnaître que dans ces films-là, Mais c'est pas qu'il se force pas, mais c'est qu'il cherche pas forcément à changer sa voix ou à essayer d'adapter la manière dont il parle au personnage. Bah, dans Spider-Man, il le fait un peu, mais c'est vrai que sa voix de base fonctionne très bien, quoi. Donc,
Et puis c'est donc, plus tard.
Et là, par contre, qu'il se soit dit, ok, bah attends, je suis une taupe. Comment est-ce qu'elle parle, une taupe? Tu sais, genre, qu'il se soit dit, bah, je vais engager ça.
Il a suivi une taupe pendant un an.
Et là, il s'est dit,
pas appris grand chose.
Une taupe, elle parle comme le gars dans Piggy sous ses marées. Ok. Je comprends pas. Il a dû re-regarder Piggy sous. Il s'est dit, mais bonne voix de taupe.
Elle était pas mal, cette voix là. Je vais m'en resservir. Hein, on va recycler un peu.
Ce serait con de pas s'en servir. Mais je sais pas. Mais le simple fait qu'il se soit dit, je vais pousser le truc, je vais m'investir dedans, je trouve ça. C'est tout à son honneur. Puis ça lui. Puis pour être honnête, je trouve que c'est un pari qui a porté, qui marche. Il marche bien en fait. Moi, je suis très content de cet accent cagiesque.
Non, mais finalement, là, il va en progressant. On les différents films comme ça en voice-over. Donc, il en aura d'autres après parce qu'il fait les Croods. Il va faire aussi Superman dans Teen Titans. Enfin, on aura l'occasion de le réentendre en tout cas, et puis évidemment Spider-Man, j'ai très hâte de revoir parce que
absolument,
parce que super film, mais mais voilà, bon, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur Nicolas Cage?
Sur Nick Cage, non, vraiment pas. Super agréable en fait, un grand plaisir. Puis honnêtement, c'est con à dire, mais j'avais un grand sourire tout le long, juste parce que je l'écoutais à chaque fois qu'il parlait. J'avais juste un gros sourire. Puis c'était juste à... Pour être honnête, j'ai juste envie de voir des featurettes de ce film-là. Je l'ai en DVD. Parce que ma copine me l'a acheté en DVD. Faudrait que je regarde s'il y a une featurette dessus, parce que s'il y a une featurette avec Nick Cage dans le booth, dans le truc d'enregistrement, je veux voir s'il est genre à fond en mode Hugh Jackman, j'essaye de faire le personnage, ou s'il est juste en mode je parlais. C'est un peu con, j'aurais dû regarder avant de faire l'enregistrement ce truc-là en fait.
Effectivement, mais bon.
Mais voilà, c'est en vrai c'est rare. Quand t'entends quelqu'un et tu te dis ah man, j'aimerais ça avoir des images de lui qui enregistre, et là c'est quelque chose qui a popé dans ma tête, puis j'étais genre ah j'aimerais ça avoir des images de lui qui enregistre, et je pense que c'était un peu, je pense qu'on peut terminer là-dessus.
Okay. On peut passer du coup à la partie notation. Il faut noter le film sur l'échelle de la folie, et puis sur l'échelle de la qualité de performance de Nicolas Cage. Donc, l'échelle de la folie, déjà, dans un premier temps.
Ah ben, mais c'est... Pour moi, le simple fait... Alors, c'est vrai qu'il part pas dans des excès absolument incroyables, hein, sauf pendant le retournement de situation, on va dire, où il se lâche un peu plus, mais même là, il part pas non plus dans des trucs incroyables. Mais par contre, le simple fait qu'il ait utilisé cette voix, moi, ça lui ferait gagner... Un 0,75 là, facilement quoi. Alors je sais pas quelle note on lui mettrait s'il avait pas la voix, tu vois, mais j'y mettrais un 0,75, 1 de plus même, facilement, juste pour la voix quoi. Mais sinon, à part ça, il est quand même, pour moi, il est quand même assez classique. Il joue une taupe, quoi. Donc, tu sais, c'est quand même, il essaie de faire des maniérismes. Tu vois, tu sais, s'il avait pas la voix, j'y mettrais facilement un 5, quoi. Ouais, peut-être un 4,5. Donc avec la voix, j'y mettrais un 5,5, tu vois.
Ah ouais.
T'es je dur, trouve... Hein t'es Je mettrais dur. Plus que ça.
Ouais, je mettrais plus quand même.
Mais c'est parce que je vois Ghost Rider, on lui a mis 6,5. Et j'ai l'impression que c'est un peu en deçà de Ghost Rider.
Bah, Ghost Rider, ouais, c'était très variant quand même. Ouais. Il y a des moments de calme plat et des moments un peu plus... Mais bon, après, c'est vrai que... Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il apparaît pas tant que ça dans le film, donc c'est dur en fait de noter sur ses apparitions. Mais moi j'aurais mis 6 pour être en dessous de Ghost Rider. Et tu vois, par exemple, dans National Treasure 2, on l'a mis à 6, je le vois pas forcément en dessous. 6 ou 6,25, tu vois.
Ouf, je suis impressionné par ta gentillesse.
Pas non plus, ça va, 6 sur 20, 2 sur 10, c'est pas non plus.
C'est...
Kiss of Death, c'était 6... on a mis 6,25 à Kiss of Death. Moi, je l'aurais mis pareil.
Eh ben, écoute, je vais te suivre là-dessus, parce que...
Bon, après, j'imagine oui. que tu vas pas te battre pour ça non plus, quoi. Pas
non, non, parce que je l'ai trouvé... La folie était là, c'est juste que c'est pareil, t'as raison, je pense que c'est le côté, je sais pas trop où le placer par rapport à d'autres films, mais c'est vrai que si tu me dis que 6,25 ouais, te va, je suis très honnête avec 6,25. Et pour sa performance, bah écoute, on a quelque chose de solide, quoi. On a quelque chose qui, je vais être honnête avec toi, je mettrais exactement la même note. Je mettrais un autre 6,25. Parce que j'aime ça, avoir des...
une symétrie.
Ouais. Parce que si je dis pas de bêtises, on en a zéro en fait qui sont partout pareil. Pareil, non ?
Ouais, ouais. Je pense qu'on en a pas effectivement.
Écoute, celui-là pourrait être un
proche, mais...
parce que je l'ai trouvé il est correct, il est là, il joue sa taupe quoi. Enfin, c'est un peu difficile, comment est-ce que tu juges la performance d'une taupe ? Ben, pour moi, est-ce qu'il était crédible en taupe ? Bah ouais, il était crédible en taupe, quoi.
Ouais, moi j'aurais mis un peu plus.
Ouais.
Bah, tu vois, par exemple, à Weverman, on a mis 6,5. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il était plus intéressant là que dans Weverman. Donc moi, j'aurais sûrement mis un 6,75.
Tu sais, c'est...
Oui, oui. Ah, oui, c'est un peu... De toute façon, c'est la difficulté de notre mission.
Bah écoute... Ah, coupons la poire en deux, mettons un 6,5 comme Weatherman.
Allez.
Comme ça, on est.
Vendu.
Correct. J'aurais jamais mon équitable, mais bon, c'est pas grave.
Ah non, il faut garder le suspense. Oh, il y a un film, on va être 0-0, tu vois.
Mais non, mais parce Ouh. Que si c'était le cas, on aurait mis un
point. Ah, quoi qu'il y a le film de Sonotion qui sort, on va peut-être mettre 10-10 aussi. Hein.
Ah, ça, c'est. Ah oui!
On est très chaud, on est très chaud.
Peut-être. Oh mon dieu, j'ai si hâte.
Bon, je pense qu'on écoute, a dit tout ce qu'on avait à dire sur GeForce.
Sur Mission G, voilà.
Oui, GeForce, ça fait trop carte graphique.
Ah, moi, ça me fait juste penser aux cartes dans Final Fantasy VIII.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais.
Eh bien, allez rejouer à Final Fantasy VIII.
Oui, voilà, tout à fait. Oui, d'ailleurs, oui.
Et puis, en attendant le premier épisode, parce que nous, on se retrouve dans 2 semaines, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc sur Twitter, @CitizenCagePod, sur Facebook et Instagram, CitizenCagePodcast, et puis vous abonner sur toutes les différentes plateformes de streaming de podcasts, donc Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, et puis voilà, puis toutes les applications type Podcast Addict ou équivalent qui ont le catalogue intégré, donc il suffit généralement de chercher Citizen Cage pour vous abonner. Et puis voilà, on vous dit à dans 2 semaines. On va parler de quoi dans 2 semaines, Alexis ?
On va parler d'un autre film d'animation avec Nicolas Cage qui fait une autre voix et qui s'appelle Astro Boy.
Voilà. Ciao à tous.
À la prochaine tout le monde.